radio d'amour.
Bienvenue à tous, Radio d'amour épisode 4. On en a passé du chemin et du temps ensemble. Chers amis, vous connaissez le principe. 6 épisodes, une coproduction de Asmac 07 Radio M pour parler d'amour avec Marine Pellegrini, avec Amaury. Comment vas-tu?
Oui, ça va, moi, ça va. Et toi, ça va?
Ben, merci, du coup, ça va très très bien.
Puisqu'on parle d'amour, on parle des gens qui nous soutiennent ou pas?
Et j'allais dire, commençons par là, parce que ouais. Sans eux, on ne serait rien.
Sans eux, on ne serait rien. Donc la coproduction SMAC 07 et Radio M se fait grâce au partenariat avec la communauté de communes Ardèche-Rhône-Coiron, qui nous soutient dans le cadre d'un projet EAC, et avec les copains, coquines du Muséal, qui nous baignent de leurs bonnes ondes pour nous accueillir à chaque fois dans ce petit nid douillet.
Exactement.
Pour qu'on s'ébatte.
Représenté évidemment par Adeline. Adeline, comment vas-tu? J'en profite.
Ça va, et vous?
Tu nous as manqué, hein?
Ah, vous m'avez beaucoup manqué aussi.
Et on a dit un peu des trucs pas gentils sur toi. Je sais pas si t'as écouté.
J'ai pas eu le temps encore.
On peut pas faire de l'entre-soi quand on parle d'amour.
Exactement. Alors, pour ce qui est de l'épisode 4, nous poursuivons notre aventure dans le sentiment amoureux que nous avons découvert le mois dernier.
Toi, tu l'as découvert que le mois dernier, du coup?
Oui, c'était ouais. Tout neuf. Jusque-là, je n'étais sans sentiment, sans émotion.
Et ça t'a fait quoi?
C'était génial. Un peu brut aussi, hein, un peu barbare, mais c'était bien. C'était la version chimique, scientifique, et nous passerons aujourd'hui à la version philosophique, si j'ai bien résumé.
On est bien, c'est tout à fait ça.
Oui, il faudra vous partager les micros. Et puis, on a eu Adeline et notre invitée du jour, Claire, bonjour.
Bonjour.
Alors Claire, tu vas nous faire des contes, tu vas nous conter
voilà,
de belles histoires.
Je vais vous parler d'amour à travers les contes traditionnels aussi.
Exactement. Et j'ai effectivement oublié la virgule, c'est ça que vous attendez tous avec impatience.
La virgule et le nom de famille
la
de
virgule,
Claire.
La virgule, la virgule. Exactement.
Radio d'amour.
Est-ce que c'est le moment de parler de Claire Bonnasse quand même, de nous parler
bonjour.
De pourquoi tu es là? Rebonjour déjà et pourquoi tu es là, sûrement que tu ne le sais pas, c'est nous qui t'avons invité, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, Claire?
Dans la vie, je fais plein de choses, mais en ce moment, je compte.
D'accord.
Je raconte des histoires, des contes traditionnels.
Et quand même, pour la petite histoire, Claire Bonnasse, je pense que les gens qui nous suivent et qui suivent les émissions depuis le début, c'est un patronyme qui leur parle, puisque oui. Tu es la compagne à la ville d'Isaac Bonnasse.
Voilà.
Et est-ce que vous avez des projets en commun, à part l'amour? Ah non, c'est peut-être trop...
C'est peut-être pas voilà, c'est gênant.
Je ne m'y attendais pas. De se connaître mieux. Non, vous ne faites rien en commun quand il tripatouille sa guitare? Tu
ne
lui susurres pas des mots dans l'oreille
voilà,
ou dans un micro?
On écrit ensemble certains textes, ces chansons.
D'accord.
Voilà. Et une première, on a fait un spectacle ensemble au mois d'avril en deux parties. Première partie conte, deuxième partie concert. Et du coup, c'était une toute première où on a partagé la scène ensemble.
Et n'est-ce pas ta silhouette qui apparaît sur la jaquette de l'album, du dernier album d'Isaac?
Oui.
Mais tu sais beaucoup trop de choses, Amaury.
Mais je me renseigne, je bosse.
Oui.
Je bosse.
Mais là,
rappelle-nous
c'est plus bosser,
quand
là,
est-ce qu'il est sorti cet album, juste pour lui faire un petit peu de pub. Enfin, il est disponible où? Il y a des concerts prévus?
Alors, l'album est sorti il y a un an. Et là, il l'a sorti en version vinyle, tout récemment.
Oui.
Il s'appelle Vertige. Et les prochains concerts sont en juin. Il y aura le 15 juin, le 21 juin, 22 juin. Et, enfin, vous pouvez aller voir sur son
ouais.
site.
Et puis nous, on postera un lien sur la page de Radio M, dédiée à Radio d'Amour. D'ailleurs, c'est l'occasion de le rappeler.
Oui, où vous retrouvez tous les épisodes en streaming, bien évidemment, et toutes les infos nécessaires à cette émission. Habillage radiophonique, et on se retrouve directement juste derrière avec Claire et le premier conte.
Radio d'amour.
Cette histoire se passe là où le froid est saisissant. Cette histoire se passe là où la nuit est interminable, là où la banquise est infinie. Dans un village vivait un homme du nom d'Inuk. Inuk était un grand chasseur et un grand pêcheur. Grâce à lui, dans le village, personne ne manquait ni de nourriture, ni de peau de bête. Mais tous dans le village craignaient Inuk. Et tous ignoraient qu'Inuk souffrait de la solitude. Souvent, le soir venu, Inuk allait se promener sur la banquise. Et ce soir-là, Inuk est allé se promener. Il a longuement marché sur la banquise, là où les flots se brisent contre la glace. Il s'est installé contre un rocher. Il a regardé les étoiles, la lune orange d'une nuit enflammée. Il s'est rêvé une autre vie. Il s'est rêvé d'une vie dans les bras d'une femme. Il s'est rêvé d'une vie à élever un enfant. Et pendant qu'il rêvait, des phoques se sont hissés sur la banquise. Les phoques se sont dressés sur leur queue et les phoques ont ôté leur peau. Inuk est sorti de sa torpeur, il les a regardés. Sous leur peau, c'était des femmes. Elles étaient tout juste habillées de leurs longs cheveux. Elles se sont mises à chanter. Elles se sont mises à danser. Et elles sont parties au cœur de la banquise pour danser à leur guise. Inuk, à ce moment-là, a senti que le poids de la solitude a quitté son cœur. Il s'est levé. Il est allé en direction des peaux de phoque. Il en a pris une, il l'a cachée sous sa parka et l'est retournée contre son rocher. Toute la nuit, il a regardé les femmes qui dansaient. Et au petit matin, juste avant les premières lueurs de l'aube, la plus grande des femmes a poussé un cri strident. Alors toutes les femmes sont retournées à leur peau de phoque. Toutes se sont rhabillées et se sont laissées engloutir par l'océan. Il en reste une. Elle cherche sa peau, elle ne la trouve pas. Elle appelle ses compagnes, mais sa voix se brise contre les flots. Elle a froid, elle tremble, elle a peur, elle pleure. Inuk sort de sa cachette, à ce moment-là, il s'approche d'elle d'une démarche chaloupée et lui demande si elle ne voudrait pas devenir sa femme. Elle refuse. C'est ridicule, ils ne se connaissent pas. Et puis elle lui dit qu'elle n'appartient pas à ce monde-là. Justement, dit Inuk, ce monde-là, je pourrais te le faire connaître pour une durée de 7 ans. Après, je te rends ta peau de phoque. Et alors là, tu pourras choisir si tu préfères une vie de femme ou une vie de phoque. Elle a accepté. Elle a suivi Inuk. Les premières années furent bonnes. Inuk et sa femme s'aimaient passionnément. Il lui a appris les coutumes des hommes. Il a fait d'elle une mère. Elle lui a donné un fils. Et ce fut à son tour à elle d'apprendre à son fils les coutumes des hommes et les merveilles et les légendes de son propre monde à elle. Le fils a grandi. Les années ont passé. La 7e année s'est terminée et Inuk a oublié sa promesse. Durant la 8e année, la femme phoque a perdu toutes ses formes de femme. Sa peau s'est flétrie, ses yeux se sont noircis, ses veines se sont gorgées d'un sang noir, ses joues se sont creusées, ses cheveux commençaient à tomber. Un soir, dans le village, tout était calme. Pourtant, le fils d'Inuk a été réveillé par des éclats de voix. Il s'est levé, il s'est mis dans l'entrebâillement de la porte et il a vu. Inuk, lorsque nous nous sommes rencontrés il y a 8 ans, tu m'as fait une promesse. Tu m'as dit qu'au bout de 7 ans, tu me rendrais ma peau de phoque. Et tu n'en as rien fait. Mais regarde-moi, cette peau, elle fait partie de moi. Ta peau de phoque? Ta peau de phoque? Mais si tu me demandes ta peau de phoque, c'est que tu veux repartir. Tu veux repartir dans un lieu où je ne peux pas te suivre. Pire, dans un lieu où ton propre fils ne peut pas te suivre. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Tu ne peux pas m'empêcher d'être ce que je suis véritablement. Ce que tu es véritablement, je vais te le dire, tu es une mauvaise mère, tu es une mauvaise femme. Sur ces mots, Inuk a quitté la maison en claquant la porte. La femme s'est relevée, fébrile, elle a fouillé partout, elle est allée dans la réserve, elle a poussé les harpons et dessous, il y avait sa peau de phoque. Mais elle était craquelée, elle était asséchée. Elle est sortie à son tour de la maison. Son fils l'a suivie. Elle est arrivée près de l'océan, elle a plongé sa peau 3 fois d'affilée dans l'eau. Lorsqu'elle l'a ressortie, sa peau était souple, éclatante. Alors enfin, elle a pu l'enfiler. Elle s'est arrêtée net. Elle a senti, juste là, le souffle de son fils. Mon fils, toi et ton père, je vous aime plus que tout. Mais on ne peut pas empêcher quelqu'un d'être ce qu'il est véritablement. Elle a fini d'enfiler sa peau de phoque et elle s'est laissée engloutir par l'océan. Le fils est resté là pétrifié. Rapidement, Inuk est arrivé. Il a posé sa main sur l'épaule de son fils. Il lui a dit « Allez, viens, viens fiston, on rentre à la maison. Ta mère est repartie d'où elle venait. » Le père et le fils sont rentrés à la maison. Depuis ce jour, Inuk n'a plus jamais touché un seul de ses harpons. Avec son fils, ils sont devenus éleveurs de rennes.
Ismar.
Merci.
C'est direct à moi.
À toi.
Je suis émue. C'est chiant. Qu'est-ce que je pense de l'amour ? En somme, je n'en pense rien. Je voudrais bien savoir ce que c'est, mais étant dedans, je le vois en existence, non en essence. Ce dont je veux connaître, l'amour, est la matière même dont j'use pour parler, le discours amoureux. La réflexion m'est certes permise, mais comme cette réflexion est aussi prise dans le ressassement des images, elle ne tourne jamais en réflexivité. Exclue de la logique, je ne peux prétendre bien penser. Aussi, j'aurais beau discourir sur l'amour à longueur d'année, je ne pourrais espérer en attraper le concept que par la queue, par des flashs, des formules, des surprises, d'expressions dispersées à travers le grand ruissellement de l'imaginaire. Je suis dans le mauvais lieu de l'amour, qui est en son lieu éblouissant. Le lieu le plus sombre, dit un proverbe chinois, est toujours sous la lampe. Le lieu le plus sombre est toujours sous la lampe.
Titre. Je tente un truc. Hein.
Est-ce que quelqu'un a vraiment compris ça ? Bon, merci Roland Barthes, hein, merci de m'aider à leur faire comprendre. Je vous l'ai dit qu'on allait en chier. Je vous l'ai dit que ça allait être compliqué de parler d'amour.
Depuis le début. Hein.
Depuis le début, ouais. Voilà. Écoutez, je me permets de remettre une couche. C'est très compliqué de parler du sentiment amoureux. Ça ne se dit pas, ça se vit. Le mois dernier passe encore, on a parlé de chimie. Bien, je crois que c'était le dernier rempart à l'indicible. Tout le reste, c'est impossible d'en parler. Ne me regardez pas comme ça. Moi aussi, j'ai cru que j'allais vous trouver la clé. Mais honnêtement, ce qui se passe dans nos têtes, dans vos têtes, au moment où on tombe amoureux, eh bien, c'est de l'ordre de l'indescriptible. Pourquoi, comment, combien, j'en sais rien. Je sais, je vous ai habitué à une espèce d'infaillibilité. D'omniscience humble et sensible.
Pas tant que ça. Hein.
Tu te calmes. Oui, je sais. Eh bien, il est temps de me lâcher la main et de laisser vos cœurs trouver leur propre chemin sans maman.
On peut t'appeler maman ?
C'est très bizarre.
Tu peux m'appeler maman.
Bah, allez.
Ça a été dur aussi pour moi. J'ai failli tout plaquer, les gars. Allez, on plie les clarinettes. Dr Love quitte le navire.
Oh non !
Ah ben, et après, je me suis dit, wow, minute papillon. Hein, on se laisse
Molo
pas
Fio,
à boîte.
Enfin, tous les...
Tout doux bijoux. Ouais.
Tu vas pas partir sans conclure.
Non, jamais. Et du coup, je me suis dit, dans le doute, ma marine, toujours revenir à la base. Donc je suis partie de cette remarque pleine de bon sens de ma maman. C'est idiot cette expression tomber amoureux. Il faudrait plutôt dire monter amoureux. Purée, c'est pas con ça, Vévette. C'est son surnom, elle le déteste. Ben oui, pourquoi tomber puisque c'est censé être positif ? Pourquoi la chute ? Et en anglais, c'est pareil, hein. To fall in love. Fall, c'est tomber aussi, si jamais.
Ouais. Non, mais ça va. Je
ne connais pas ton niveau d'éducation.
Where is Brandon ? Brandon is in the kitchen. Allez ! Brian ?
Ah oui, c'est bon. T'es pas Brandon.
Je vais faire un tour.
Tomber dans le dictionnaire, c'est être entraîné soudainement vers le bas. Soudainement vers le bas. C'est quoi ce bordel ? Je me suis dit, c'est vrai, ça n'a pas de sens. Alors ça voudrait un peu dire que ce moment soi-disant heureux où l'amour nous prend, ce sentiment amoureux du début où on est d'accord, on ne dit pas encore je t'aime, parce que c'est pas vraiment ça qu'on ressent, et puis ça serait super flippant de dire ça direct. Cet instant donc serait au final quelque chose qui serait intrinsèquement, ça veut dire par nature, hein, pour les déscolariser, par nature donc négatif, douloureux, voire toxique. Quand je dis je suis tombée amoureuse, je prophétise à moi-même et à l'autre qu'on va en chier et que ça va faire bobo.
Pourquoi tu prends un accent allemand quand tu dis ça ? C'est bizarre.
j'ai fait allemand, je suis désolée.
J'ai cru.
Je sais pas, une autre vie peut-être. Merde, les cons, c'était écrit dessus comme le port salut. Et ouais mon pote, ça date pas d'hier en fait, si fumais-tu, la passion pue. Super, super, merci Dr Love. Ouais,
c'est parfait.
C'est bien. Et on venait passer du bon temps et tu nous fous le bourdon. Alors attends, me la faites pas à l'envers. Hein. Vous l'aimez, vous, ce moment où on perd les pédales, il y a tout qui se détraque, à commencer par ta digestion. Hein ?
Ah, toi, tu lèches des caisses quand t'es amoureuse. Que tu... bah, pourquoi pas?
Non, mais tu te calmes, attends. Bah, moi, absolument pas. Ah, moi, non, ça me fait rien du tout. Je suis Dr. Love.
Ah oui, c'est vrai, pardon. Hein.
Alors, Simone, tu te sens bien, là? Dépendante, envahie, toute concon, avec tes endorphines qui te ramollissent et ta dopamine qui t'excite? La passion, comme disent les poètes, la flamme, le truc qui brûle la bûche, le foyer et toute la baraque. On nous a un peu appris à courir après ce truc dévorant, en l'érigeant comme l'ultime forme d'amour. Et pourtant, l'histoire nous a pourtant mis sous le nez un paquet de tarés qui en ont chié, mais que l'on a placé sur un piédestal, comme des êtres magnifiques, des icônes de l'amour. Des cons, oui. En tout premier lieu, j'appelle à la barre Adam et Ève. Ah ben bravo, bien joué les gars. Premier couple, première passion, premier problème, avec en bonus la gonzesse qui ramasse la double peine. Yes, super bonne ambiance. Je vous la re-raconte au cas où, si vous êtes passé à travers. Allez, pas piquer des hannetons. Dieu met Adam dans le jardin d'Éden, trop calé, tout avec du wifi, du jus de goyave à volonté. Par contre, il lui fout sous le nez l'arbre de la connaissance en lui disant « Oui, alors par contre, j'ai foutu ça en plein milieu, mais t'as pas intérêt à y toucher, parce que sinon, tu meurs. Ouais. » Sérieusement, Dieu? Moi, perso, tu me laisses dans une pièce tranquillou avec plein de trucs trop cool, mais que tu me dis « Oui, alors par contre, il y a mon carnet intime, là, dans le deuxième tiroir à gauche, sous ma collection de Spirou, mais t'as pas intérêt à y toucher ?»
T'y touches pas, c'est tout. Il t'a dit quoi? Il t'a dit le monsieur, bah non.
Ah bah j'y touche. Donc déjà Dieu, excusez-moi, un petit peu tordu, hein, mais bon. Adam, manifestement, est peinard, pas curieux, il pense à autre chose, il boit du jus de goyave. Mais il s'emmerde un peu. Donc Dieu crée la femme à partir d'une de ses côtes qui lui retire sous anesthésie générale. Hein.
Un soir bourré.
Ouais, tranquille. Et là, le serpent débarque. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas pu, Dieu, ne pas le laisser rentrer, ce con de serpent, puisqu'on est omniscient, omnipotent, non? On laisse rentrer le serpent,
de base.
Très bien. Et là, il retourne le cerveau de cette d'Ève, et bim, elle bouffe le bruit défendu.
Le bruit défendu,
le bruit,
c'est génial.
Le fruit défendu en fait bouffer à son con de mec, et bim, accouchement douloureux pour toutes les meufs à jamais. Et surtout, très mauvaise vibe de base.
Qu'il y a une mauvaise soirée au final.
Ouais, très mauvaise vibe. Nous voilà avec sous le nez le premier couple au monde à tomber. C'est l'amour, c'est la chute irrémédiable. Ils vécurent pas heureux et firent beaucoup trop d'enfants.
Youhou ! Applaudissements ! C'est génial !
Ensuite, j'appelle à la barre Marc-Antoine et Cléopâtre. Tiens, ah bah alors vous, c'est pas mal aussi. Hein. La liaison d'Antoine et de Cléopâtre commence en 41. Marc-Antoine, je l'appelle Marco, je sais pas, j'aime bien. Marco est alors marié à Fulvia, mais il tombe éperdument amoureux de Cléopâtre, qui est, paraît-il, pas dégueu et charismatique à un osté. Puis Fulvia décède et Marco décide d'épouser Octavie, la sœur d'Octave, histoire de sceller une alliance politique. Mais quand il retourne à Antioche, on dit Antioche ou Antioque ? Antioche, ah ouais.
Merci Adeline.
On va dire Antioque.
Tu vas enquiller hein, si tu commences à parler comme ça.
Antioque. Il recroise Cléopâtre et fond à nouveau pour elle. Il envoie chier Octavie et donc son frère lui déclare la guerre. Il lui fout une raclée monumentale car Marco se contrefout complètement de cette guerre. Il ne pense qu'à Cléopâtre. Il ne fait qu'attendre après elle. Il ne vaut plus rien. Comme le rapporte Plutarque, je cite, « Impatient d'aller passer l'hiver avec elle, il commence à la guerre hors saison. » Donc il y avait une saison pour faire la guerre.
Winter is coming.
Oh mais c'est... Ouais, dingue.
Je crois.
Et agit tout en brouillon, plus occupé d'accélérer son retour auprès d'elle que de vaincre l'ennemi. Raclée monumentale.
Je m'en fous.
M'en fous, tu es amoureux. Petite parenthèse, c'est encore sur Cléopâtre que ça va tomber, qu'on traitera de tous les noms, courtisane, prostituée, putain couronnée. Super. Donc, gros défaut.
Dit-on.
Ouais. Super.
Pas Jojo, hein.
Pas Jojo du tout. Et attendez, parce que le dénouement final est aussi bien, bien débile. Après avoir perdu tous ses territoires ou presque, Antoine se suicide, croyant que Cléopâtre elle-même s'est suicidée, alors que juste elle avait pas de réseau, elle avait plus de batterie après,
le
vu qu'elle avait pas de réseau.
Le coup des trois petits points sur Messenger, tu vois, ça peut foutre en l'air une vie.
Il avait écrit vu.
Et voilà.
Il avait écrit vu, mais elle répondait pas.
Voilà. Et ça a tout foutu en l'air.
Il s'est dit, oh bah alors là, moi j'en ai rien à foutre, je me suicide. Voilà. Et du coup, c'était pas ça. Et quand elle revient, bah, elle se suicide aussi parce que c'est trop nul.
Voilà.
Elle l'avait vu, son texto, mais elle avait pas de réseau. Voilà. Et donc, bien sûr, ce ne sont pas les seuls. Hein. La plupart des amoureux célèbres sont des amoureux maudits. Roméo et Juliette, même Topo, Cléopâtre et Antoine, plus con, tu meurs. Tristan et Isolde, ouh, c'est con. Orphée, Eurydice, con. Raymond et Robert Bidochon, voilà. Voilà la propagande de base.
Stone et Chardin.
Pareil.
Véronique et Devina.
Pareil.
La passion fait mal, vive la passion. L'humanité porte au nu les passions tristes et destructrices. Bonne ambiance, hein? En deuxième partie d'émission, nous retournerons voir du côté du banquet pour voir ce que Socrate a répondu à Aristophane au sujet de son mythe des petites bouboules.
Ah!
Et voir si on peut espérer trouver un peu de réconfort dans son concept de sentiment amoureux.
Je n'y crois pas une seconde, mais je me lance. Applaudissements, s'il vous plaît. C'était fort chatoyant.
Est-ce qu'on a des réactions?
Des réactions?
Pas face à cette...
D'Adeline, tu veux dire?
Ouais, peut-être qu'on peut demander
une punchline.
On pourrait lancer une genre de battle antiquité, puisque
Marine
marche un petit peu sur tes plates-bandes. C'est toi d'habitude qui raconte.
Te sens-tu offensée, Adeline?
Absolument pas.
Tu peux par contre. Hein, oui, jette le gant par terre. Allez.
Mais non, mais on n'est pas belliqueuse. Hein.
Non, ça
dommage.
Va.
Parce que Adeline, c'est quand même elle qui d'habitude raconte des trucs dégueulasses sur des gens morts. Il y a très très longtemps.
C'est d'habitude un peu hardcore quand Adeline prend le mic.
Et c'est pour ça que je vous ai manqué la dernière fois.
C'est terrible, mais Alain était parfait aussi dans ce rôle. Et là, pour le coup, je crois qu'il y a du niveau aussi hein, aujourd'hui.
Oui, ça devrait être pas trop mal.
Ceci dit, ménage quand même les profs d'histoire qui ont dû faire un ou deux AVC en écoutant la vulgarisation un peu brutale de Marine. Donc, si tu peux penser à...
Moi, j'ai trouvé ça très bien.
Classe. Non, mais
t'as
moi
tout
aussi,
compris.
Je suis fan. Hein, mais bon, ouais, il faut penser à tous les publics.
C'est vrai.
À toi, Marie. Adeline, pardon.
Bon, je vais vous parler du sentiment amoureux dans l'Antiquité. Pour avoir un petit truc sérieux, c'est vrai que le sentiment amoureux, on voit qu'il est terriblement conditionné par la société dans laquelle il prend place. Ça vaut pour aujourd'hui aussi. Ça permet de se poser des questions.
Mais tout vaut pour aujourd'hui aussi. Hein. Tout ce qui se passe chez les Grecs, on le retrouve chez nous.
Ah oui, oui. Oh, bah, là, ce sera ma conclusion, vous verrez.
Sauf les enfants dans les coffres, quoique.
Non,
mais rigolez pas, c'est vrai. Épisode 2, épisode 3, voilà, vous verrez. Pardon, Adeline.
C'est rien. Donc, dans l'Antiquité, le sentiment amoureux, c'est pas franchement le top. Hein. Désolée, ouais. On va dans la même direction.
Bah,
hein.
Oui.
C'est compliqué, c'est dur, et puis... Ça fait pas franchement rêver. La monogamie, c'est la règle. Donc un couple marié, voilà, ça fait quelque chose d'assez rigide, mais bon, c'est comme ça.
C'est un langage sociétal.
Voilà, c'est ça.
Oh, un peu.
Ça m'impressionne. Donc on a le mariage, sauf que on a des exemples historiques qui montrent que c'est pas franchement le truc le plus glamour. Notamment en fait, quand Rome a été fondée, c'était par une bande de mecs, et il fallait perpétuer un peu la ville, suite à la fondation, donc trouver des femmes pour faire des bébés. Hein. Donc ils sont allés les chercher chez les voisins.
Excuse de merde, excusez-moi le propos vulgaire.
C'est comme ça que l'histoire l'a retenue.
Mais qu'est-ce que tu veux, faut bien repeupler. Chérie, alors.
Le problème, c'est qu'on touche à ce à quoi la femme sert dans le mariage, à faire des bébés. Ouais. Donc voilà, c'est
le contenant, quoi.
Voilà, donc vive l'ambiance. Mais l'histoire a retenu ça. Ça s'appelle l'enlèvement des Sabines. Il y a des tableaux qui ont été faits, tout et tout. Pas
des
franchement
Sabines.
Glamour. Ouais, des Sabines.
Non, des Sabines. D'accord.
Ouais, voilà, des Sabins et des Sabines.
Moi, j'aurais pas pris des Sabines, moi.
T'aurais pris quoi?
Des Corinne ou des.
Puis tu changes
ou
tous
des
les mois.
Christelle.
Enfin, tu varies. Quoi.
Il n'y a pas de Christelle dans la salle. Je suis désolé
s'il
y en a une.
Écoute, ils sont morts eux aussi, donc.
Mais oui,
on
se doutait bien qu'ils allaient crever un jour ou l'autre.
Voilà, oh oui, ça fait tellement longtemps. Ouais. Donc, on voit à travers cet exemple que c'est pas franchement le truc glamour. Enfin, voilà, se chercher une nana et l'enlever, et faire des goals.
C'est peut-être le truc le plus glamour que tu nous as raconté jusque-là, hein, sur l'Antiquité. Après, je te laisse parler, mais bon.
Attends, la suite arrive. Du côté du mariage, bon, la femme doit avoir trois vertus, la fidélité, la chasteté et la fécondité. Youpi. Voilà, donc la chasteté, c'est que la femme...
C'est quoi ça, la chasteté ?
C'est la femme ne doit se donner qu'à son mari.
Ah oui, d'accord.
Donc comme la fidélité, un peu la même chose. Et on a un exemple, c'est Amphitryon. C'est l'histoire en fait de Jupiter qui prend la place d'Amphitryon.
Jupiter qui est Zeus, hein.
Voilà,
hein, Zeus, c'est toujours le même.
Oui, c'est toujours le même. qui va tremper son biscuit un peu partout et donc qui va...
Oh. Quoi? Oh. Non mais elle est mignonne cette Adeline. Non, mais et donc, vous la voyez pas mais c'est un petit, une petite. Oh là là, mais tremper son biscuit ça te va tellement bien. Non mais ça te va
ton
bien.
Ton petit biscuit.
Non mais bon, c'est tellement voilà. Mignon.
Nous on essaie d'instaurer des règles, des trucs.
Comment présenter les choses autrement avec Zeus ou Jupiter. Enfin vous avez eu voilà.
Le biscuit.
C'est pas l'image du biscuit qui me venait mais.
C'est plus mignon.
Coucou.
En gros. En gros, Jupiter a craqué pour la femme d'Amphitryon, Alcmène. Et Alcmène, en fait, a des doutes sur le fait que ce soit vraiment Amphitryon. Donc, elle lui demande plein de preuves. Bon, elle finit par se faire avoir quand même. Ça donnera Hercule. Donc, bon, le résultat est pas... Voilà.
Oui, ça va. Pas dégoût.
Ça va. Ah oui, mais pardon. Bon, elle s'est quand même faite avoir. Juste un petit truc comme ça. Moi, c'était un texte que j'avais adoré. Amphitryon 38 de Giraudoux. C'est la 38e version de l'histoire. Donc, ça veut dire que c'est un thème qui est universel, qui a été repris tout au long de l'histoire. Et la dernière version est vraiment géniale et à mourir de rire. Pour continuer là-dessus, donc, une femme mariée, les trois valeurs, la fidélité, chasteté, fécondité. Bon, ça, c'est pas chouette, chouette. En tout cas, pour, enfin, par rapport à nous aujourd'hui. Même si peut-être dans certaines parties du monde ça vaut encore, ou dans certains cerveaux.
Pourtant, il y en a qui gueulent aujourd'hui. Hein.
Ouais, je voilà. Bah, elles ont bien raison.
Je dis rien, mais il y a quand même progrès. Non? Personne n'est avec moi.
Temps, combien ça fait des milliers d'années après vous, Sophie?
Il y a du chemin encore cool. À faire. Bon, en tout cas, du côté du bonhomme, c'est là où les choses commencent à devenir un peu rigolotes. Lui, en fait, il peut aller voir un peu partout. Il va voir sa femme pour faire des enfants, mais s'il veut s'amuser un peu autrement, il a ses esclaves, hommes et femmes, des prostituées. C'est là où...
Il y a des gens dans le public qui ont fait « Ah ouais !»
Ouais. Ouais, non, mais alors, c'est là où la société devient vraiment très différente. Et puis, bah, il peut aller voir aussi des femmes non mariées d'un rang social inférieur. S'il voit voir une femme mariée, il s'en prend à l'honneur de son mari, donc là les choses sont assez différentes. Pour Jupiter, il y a une dérogation apparemment. Donc, mais par contre, avec ses femmes non mariées, il peut avoir une relation durable et il peut faire vivre sa femme officielle et sa femme officieuse sous le même toit, avec leurs enfants tous.
Ah bah donc, alors ça va.
Donc monogamie dans les faits, une espèce de polyandrie, on en discutait tout à l'heure, polygynie pardon. Dans les fêtes, sans mariage, mais quand même des situations assez cheloues, assez
passionnelles, on va dire.
Parce que il peut, mais est-ce que parce que
il peut
et ça a été beaucoup fait, tu crois ou pas?
Enfin, ça s'est pratiqué.
Ça s'est pratiqué.
En tout cas,
alors, j'ai les statistiques de l'INSEE sous les yeux. A priori, à cette époque-là, c'était assez répandu, ouais, dans les couches hautes de la société.
Ça y allait, quoi.
www.insee.fr. Merci.
Ça se faisait, c'était accepté du moment que l'homme, le citoyen, était actif.
Dans actif, les... tu veux dire dans le rapport ou...
Mm-hmm. C'était. Alors, c'était. Apparemment pas moralement chômeur, important. Non, mais bon, voilà. C'est pour ça que c'est vrai. C'est aussi une autre société au départ.
Est-ce que les esclaves sont considérés comme actifs?
Non.
C'est un métier comme.
Bah oui, mais gratuitement.
Non,
d'accord. Ouais. C'était considéré aussi comme des tables ou des chaises, donc comme des meubles
des
en fait.
Des tables.
Les esclaves n'étaient pas. Enfin, ça dépendait du maître, du contexte, mais c'était plus ou moins. Enfin, déjà pas du tout en viable pour le statut, mais après ils pouvaient être bien traités aussi. Donc je vous parlais de Jupiter, bon oui, lui il a le droit d'aller voir des femmes mariées, hein. Alcmène, je vous en ai donné un petit exemple. Du côté des femmes, on a un exemple de femme qui va voir un peu ailleurs, Vénus, notre chère amie qu'on a dans la pièce à côté, qui est mariée au dieu Héphaïstos, alors en grec, mais qui
s'appelle Philippe quoi.
Oui, presque. Et qui va fricoter du côté de Mars.
Ah oui.
Donc enfin voilà, c'est...
Ça fait loin pour fricoter. Ça fait... hein.
Super long entre Vénus et Mars, ouais, bon voilà.
Ceci dit, à partir d'Alba, pour aller à Mars, c'est 2h30. Hein.
En Haute Ardèche, tu fais souvent
oui, c'est normal.
Ouais, ouais. Bon, bah voilà.
Je vais souvent fricoter à Mars, ouais.
Bon, n'empêche, même rien que la comparaison entre Vénus et Jupiter n'a aucune mesure. Vénus, bon, voilà, elle a un fricotage. Jupiter, il en a un sacré paquet, donc c'est lui qui gagne. Donc on voit toujours le déséquilibre entre hommes et femmes.
Je sais pas on si on peut féministe. Parler de compétition à ce niveau-là.
Non, non, c'est voilà, non, ça se calcule même pas, mais il fallait que je le place.
Et oui,
non, je suis contente. n'empêche que...
Un bel exemple de rire gras.
Oui, c'était parfait.
Par rapport à ce que j'avais commencé à dire, chez les Romains, dans le sentiment amoureux, il n'y a pas... Enfin, les Romains sont bisexuels, c'est très bizarre. Donc pour le sentiment amoureux, Adeline, c'est pareil. Alors,
je me permets de te reprendre pour tous nos auditeurs et nos auditrices de gauche.
Non, pardon,
la bisexualité n'est pas bizarre.
Non, c'est pas ça. Par rapport à aujourd'hui, on va dire que c'était un fait social très répandu et que aujourd'hui, ça ferait hurler plus d'une personne quand on voit les débats que l'évolution législative sur le statut d'une famille.
À ma dernière expérience bisexuelle, j'ai hurlé aussi. Hein.
Oh là, voilà.
Moi, perso, ça ne me pose pas de soucis. Hein. Mais d'un point de vue social, la société française ou même les sociétés occidentales sont quand même assez fermées là-dessus.
Tu as le droit d'avoir tes opinions. Mais disons, nous ne te jugeons pas.
Il y a une image fausse aussi du peuple romain, un peu genre céleste, pur. C'est ça que tu veux dire? Et qu'au final, tu as été, toi, déçu de savoir qu'ils étaient bisexuels, c'est ça?
Non, pas du tout.
Non, mais... On s'enfoncerait pas un petit peu là?
C'est important.
Je vous propose de passer à autre chose.
Laissons passer le sujet.
Les bisexuels,
voilà.
C'est bien, voilà.
Ce que je voulais dire, c'est pas aborder la question d'un point de vue sexuel, mais au départ, c'était d'un point de vue du sentiment amoureux. Et que ce sentiment amoureux était vécu dans le cadre de relations sociales. Donc, les Romains étaient en relation sociale avec des hommes et avec des femmes. Et donc, tomber amoureux d'un homme ou d'une femme pour un homme ou pour une femme n'était pas mal vu.
Oui.
Aujourd'hui, je vous laisse faire la comparaison, d'où mon terme tout à l'heure de bizarre.
Ça change un petit peu à nouveau, mais
en décalage par rapport à aujourd'hui. J'aurais dû dire ça. Et donc, c'est une thèse aussi qui a été soutenue par un célèbre philosophe, Foucault, qui a un peu questionné, remise en question, mais pas tant que ça, puisque, enfin, voilà, on a une société qui est différente et qui accepte, enfin, et pour qui l'homosexualité ne semble pas avoir de sens. La bisexualité, point. Voilà. Et dans le sentiment amoureux, aimer un homme ou une femme.
Pour beaucoup, une maladie aussi, il fut un temps. Ça, c'est pas horrible.
Peut-être même pour certains aujourd'hui, si tu fais des micro-trottoirs, ça peut faire assez peu. Hein. C'est, de ce côté-là. Jules César, pour illustrer mon propos, était bisexuel, affirmé. Certains disent qu'il était le mari de toutes les femmes et la femme de tous les hommes.
Hein,
donc, notamment par Suétone et... Curion, l'ancien.
Un homme très généreux, Marine.
Très, très généreux. Donc, dans le don et la réception.
Donc, j'ai trouvé une petite liste, en fait, de ses conquêtes officielles.
T'as compris? Tu viens de comprendre la blague?
Oui. Ouais.
Donc, ses femmes, il en a eu quatre. Cosulia, Cornelia, Pompea Silia et Calpurnia Pisonis, pardon, désolé. Juste le nom, parce que ça fait un peu voyager dans le temps. C'est
tout
sympa.
Tout ce qui finit par A, voilà.
Oui, presque. Il a eu aussi Cléopâtre, donc voilà. Servilia, Caeponis, Eunoé, Postunia, Colia, Tertulia, Mucia, Tertia. Donc ça fait du monde. Et apparemment, il a fricoté avec le roi Nicomède IV de Bithynie. Vous êtes...
Ah oui, mais ça, voilà, il avait cette réputation.
Voilà, donc
ça, c'est sûr que c'était pas le dernier pour bip.
Moi, ce que j'adore, c'est qu'il y a quand même des mecs à l'époque qui ont gravé dans la pierre tous ces prénoms. Genre, putain, dis donc, Julio, fou là. Et qu'on se fait l'histoire aujourd'hui, t'imagines?
C'est pour dire que la liste de toutes ces femmes, il n'a pas été vu comme quelqu'un de fondamentalement... il n'aurait pas eu la réputation de Strauss-Kahn, par exemple, aujourd'hui. Ça ne l'a pas empêché d'être un dictateur. Ce n'est pas pour ça qu'il a été assassiné. Enfin, ça n'a pas détruit sa carrière politique, par exemple, d'avoir cette liste de femmes officielles et officieuses.
C'était peut-être même valorisant pour lui,
Plus
on l'a dit,
moins,
peut-être
après,
une sorte de langage sociétal aussi.
Ça pouvait servir ses détracteurs par rapport à sa position d'actif ou d'inactif dans ces relations-là. Et c'est là où, en fait, où il pouvait se faire critiquer, mais pas dans le fait d'avoir eu des relations avec toutes ces femmes ou tous ces hommes.
Mais c'était pas un amoureux transi comme Antoine, donc il a continué à faire la guerre et bien.
Non, il s'est pas laissé.
Antoine, c'est vraiment.
Il avait un sentiment amoureux gros comme ça, dirons-nous, chers amis. on reviendra sur la suite après une petite pause musicale, si vous le permettez, histoire de respirer un peu, de repenser à tout ça, à cette liste notamment, et d'écouter la définition de l'amour par Courtney Jones.
Ocean that we will sail on, the tracks that we stay on, the field that we play on. Love is a schoolbook that we can count on, the page that we write on with pencils and crayons. Oh, love is
one thing that's never out of season. Love is the one thing that we can always lean on. So whether arms closed or open wide, love is always by our side. All we've got is love. Say all we've got is, all we've got is, all we've got is love. Say all we've got is, all we've got is. Love is a treasure that we can get on. Like the right hand needs the left hand to clap on. So whether arms closed or open wide, love is always by our side. All we've got is love. Say all we've got is love. All we've got is love. Say all we've got is love. The one thing that's never out of season. Love is the one thing that we can always lean on. So whether arms closed or open wide, love is always by our side. All we've got is love. All we've got is, all we've got is, all we've got is love. All we've got is, all we've got is, all we've got is love.
Courtney Jones, Love Is, à l'instant sur Radio M, et j'allais dire que sur Radio M, pas du tout, dans Radio d'Amour, c'est le réflexe des faux professionnels, chers amis. Vous écoutez Radio d'Amour épisode 4, Amoury.
Oui, et on peut du coup en profiter pour préciser que vous pouvez l'écouter également sur Radio d'ici, à Annonay et à Saint-Julien-Molin-Molette, à Radio des Boutières au Chélard, à Radio Saint-Ferréol à Cray dans le Val-de-Drôme, et aussi à Déclic Radio à Tournon.
Exactement. Radio d'Amour ne serait pas sans le micro-trottoir. Je vous rappelle qu'il était question, comme aujourd'hui, sur le sentiment amoureux.
Alors, la passion, c'est une phase que j'ai aimée au passé, parce que j'avais besoin d'intensité, parce que je me disais que cette passion était le signe que quelque chose de fort était en train de se produire, et donc que c'était une relation qui valait le coup de poursuivre, et que s'il n'y avait pas la passion, ça voulait certainement dire que ça fonctionnait pas, quoi.
La passion est la seule chose qui fait de l'amour une chose intéressante et qu'on peut espérer.
Je suis quelqu'un d'assez excessif. Ouais, je pense qu'on peut dire que je suis une excessive. Donc je vis tout en me brûlant à fond les ailes, les pieds, les mains, tout le temps. En amour, en amitié, professionnellement aussi. Et même si on dit que la passion ne dure pas, moi je préfère me sentir vivante dans le sentiment amoureux tout le temps. C'est peut-être pour ça aussi d'ailleurs que je n'ai jamais vécu d'histoire d'amour au-delà d'une dizaine d'années. Mais quand ça commence à s'étioler, je commence à m'ennuyer, comme dans tous les secteurs, et donc je pars.
Moi, j'adore cette période, à condition qu'on ait la conscience de la vivre. C'est-à-dire, par exemple, vu de chez moi, il ne faut pas prendre de grandes décisions quand on est dans cette période, parce que c'est une période on n'est pas dans la construction, on est dans la consommation à vide de cette nouvelle relation. Et donc, point de mariage, point d'enfant, point d'achat d'appartement, point de projet. Parce que la passion, elle nous fait perdre un petit peu les pédales. Et c'est ce que... Moi, j'aime beaucoup perdre les pédales comme ça.
Dans les passions, je pense à un truc où il y a les spectateurs et il y a les acteurs. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui regardent les gens se consumer. Donc on est très content de regarder Roméo et Juliette, on est très content de regarder des films avec des passions amoureuses ou d'entendre des chansons où il y a des passions amoureuses qui nous sont contées, parce que on peut être devant notre petite télé et nous vivre avec Pépère ou mes mères juste à côté, c'est cool, et il y a les gens qui les vivent. Et les vivre, en fait, c'est pas cool. Enfin, je pense que de toute façon, ça c'est comme tout, c'est comme la violence, la drogue, toutes les imageries hyper hardcore, en fait, c'est très confortable quand on est dans son petit rocking chair devant sa télé, mais en vrai, c'est l'enfer. La passion, c'est juste la glace, le fruit de la passion, c'est cool. Mais la passion, je crois qu'en fait, c'est... D'ailleurs, passion rime avec destruction.
Ok, vous vous rappelez du mythe d'Aristophane?
Oui,
oui. Dis-nous, Damien, c'est quoi?
Alors, c'est
quoi?
Aristophane qui monte dans un bateau.
Non, faux. Bon, pour résumer très très rapidement, dans Le Banquet, Platon retranscrit des échanges entre Socrate et ses potes au sujet de l'amour. Et à un moment, Aristophane prend la parole et sa théorie, c'est que nous étions, il y a fort longtemps, des boules coupées en deux.
Ah, mais oui!
Ben oui.
J'attends, en plus.
Les bouboules.
Ben oui, les bouboules.
Coupées par Zeus, le pervers narcissique de base, et que nous passons donc notre vie à rechercher notre moitié, notre semblable. Et une fois que cette moitié est retrouvée, tout est ok, on est complet, comblé, apaisé et heureux. D'où l'adage qui se ressemble s'assemble.
Exactement.
Voilà. Puis alors ça, c'est la méthode de Socrate. Hein. Il laisse tout le monde s'exprimer, dire bien plein de conneries, plus grosses qu'eux, opiner, dire « Ah ouais, tu le vois comme ça, toi, ok. Merci de nous avoir donné ton avis, c'est intéressant. » Demander confirmation. « T'es sûr que t'as vraiment dit ça ?» Je vous jure, le mec est incroyable. Il fait style « Ouh là là, quel beau discours, me voilà bien embêté devant tant de brillance, c'est à moi de parler. » Puis il se sert de tout, je te jure.
Tu le fais super bien.
Oui, je l'ai connu. Puis il se sert de toutes les conneries de ses potes pour ensuite les réutiliser dans le sens contraire. Il est hyper fort, parce qu'en plus, à la fin, les gars sont genre « Ah non, mais ouais, c'est clair, hein, t'as trop raison, socio. » Bref, Socrate repart du mythe d'Aristophane et de ceux de Phèdre, Agathon. L'amour éros est beau, l'amour est jeune, l'amour est complétude. Il convoque alors le souvenir d'une rencontre avec Diotime, grande prêtresse qui a notamment sauvé les Athéniens de la peste 10 ans auparavant et qui est remplie de sagesse. Et là, il la joue encore un peu au con. Il fait style qu'il croit comme ses abrutis de potes et il raconte qu'il dit à Diotime « L'amour est un grand dieu, beau et bon. » lui dit Diotime. « L'amour n'est ni beau ni bon. » Socrate continue de jouer un peu au débile. Ah bon, alors héros, c'est laid et mauvais. lui redit Diotime et lui rappelle que non seulement on peut être ni beau ni laid, ni bon ni mauvais, mais que lui-même, Socrate, a soutenu cette thèse. La thèse suivante. Parce qu'il est dépourvu des choses bonnes et des choses belles, l'amour a le désir de ces choses qui lui manquent. Donc il ne peut pas être un dieu, puisque les dieux sont considérés comme des entités détenant beauté et bonté. Mais l'amour n'est pas non plus un simple mortel. Il serait donc un intermédiaire, ce que les Grecs appellent un démon, daemon, D-A-E-M-O-N, une entité qui lie le commun des mortels et les divinités. Il interprète et il communique aux dieux ce qui vient des hommes et aux hommes ce qui vient des dieux. D'un côté, les prières et les sacrifices et de l'autre, les prescriptions et les faveurs que les sacrifices permettent d'obtenir en échange. Et comme il se trouve à mi-chemin entre les dieux et les hommes, il contribue à remplir l'intervalle pour faire en sorte que chaque partie soit liée aux autres dans l'univers. Et pour appuyer cette théorie, Diotime revient aux origines d'Eros. Il serait fils de Pénia, sa mère qui personnifie le dénuement, et de Poros, son père, symbole de l'opulence. Eros est, je cite, rude, malpropre, va nu-pied, il n'a pas de gîte, couchant toujours par terre et à la dure, dormant à la belle étoile, sur le pas des portes et sur le bord des chemins, car puisqu'il tient de sa mère, c'est l'indigence qu'il a en partage. À l'exemple de son père, en revanche, il est à l'affût de ce qui est beau et de ce qui est bon. Il est viril, résolu, ardent, c'est un chasseur redoutable. Il ne cesse de tramer des ruses. Il est passionné de savoir et fertile en expédients. Il passe... J'ai pas compris fertile en expédients, mais bon. Il passe...
C'est comme si tu savais, d'accord. C'est pas grave.
Fertile en expédients, il passe tout son temps à philosopher. C'est un sorcier redoutable, un magicien, un expert. Il faut ajouter que par nature, il n'est ni immortel ni mortel. En l'espace d'une même journée, tantôt il est en fleurs, plein de vie, tantôt il est mourant. Puis il revient à la vie quand ses expédients... Ah, je ne sais vraiment pas ce que c'est, ces expédients, bref. Ses expédients réussissent en vertu de la nature qu'il tient de son père. Mais ce que lui procurent ces expédients... Encore, mais bon sang, j'aurais dû regarder ce que c'était quand même. Aussi, Eros...
Quelqu'un dans le public, peut-être.
Aussi, Eros n'est-il jamais ni dans l'indigence ni dans l'opulence. Par ailleurs, il se trouve à mi-chemin entre le savoir et l'ignorance. Voici en effet ce qui en est. Aucun dieu ne tend vers le savoir ni ne désire devenir savant, car il l'est. Or, si l'on est savant, on n'a pas besoin de tendre vers le savoir. J'espère que vous allez suivre, hein, parce que c'est un petit peu...
On est au taquet, là.
Les ignorants ne tendent pas davantage vers le savoir ni ne désirent devenir savants. Puisqu'ils sont ignorants. Mais c'est justement ce qu'il y a de fâcheux dans l'ignorance. Alors que l'on n'est ni beau, ni bon, ni savant, on croit l'être suffisamment. Non, celui qui ne s'imagine pas en être dépourvu ne désire pas ce dont il ne croit pas devoir être pourvu.
Boum, punchline. Applaudissements, allez. Elle mérite ça.
Elle est difficile, cette dernière phrase. Celui qui ne s'imagine pas en être dépourvu ne désire pas ce dont il ne croit pas devoir être pourvu. Bon. Vous réécouterez au podcast. Hein. Donc, Eros, l'amour est un démon qui cherche beauté et bonté car il en manque. L'amour est manque. L'amour est mouvement vers ce qui nous manque. Quand je tombe amoureux, je vais vers le beau, le bon, car j'en manque, mais je sais qu'il existe par ailleurs. Et c'est là que le profane s'unit au divin. C'est beau, c'est mieux, non ? C'est mieux que la première partie ?
C'est parfait.
Non, c'est aussi bien.
C'est aussi bien, au moins aussi bien. Donc merci Diotime, merci Socrate, on aime beaucoup. Mais attends, parce que quand même c'est pas fini. Parce que du coup ça soulève quand même un problème, je sais pas si vous le voyez venir. Parce que par exemple chez Aristophane, on cherche notre moitié, paf, on la trouve, on n'en parle plus. Mais là, avec cette superbe théorie, il y a quand même un souci. Si l'amour est manque, ok, hop, je tombe amoureux, je m'unis à l'autre, c'est beau, c'est bon. On passe du temps ensemble, on se voit beaucoup, on se voit trop, on emménage ensemble, on se voit tout le temps, on se voit que ça, et tout, mais du coup, j'ai plus de manque là, non ? Du coup, j'ai plus d'amour aussi.
T'as plus rien.
C'est ça ce qu'on appelle le couple ? La routine ? L'ennui ? Et voilà, retour au drame, à l'éphémère. Donc voilà ma conclusion, Socrate. Eros est un con qui ne sait pas ce qu'il veut.
On va vraiment avoir des problèmes.
Alors, à toi qui es amoureux là tout de suite, qui est tombé, qui t'es élevé, qui perd les pédales et qui ne digère plus rien, je voudrais te dire malgré tout de profiter de ton trip et ne t'inquiète pas, car si le temps est en effet un ennemi de la passion, il est cependant le meilleur allié de l'amour profond et du lien impérissable entre deux êtres. Donc rendez-vous au prochain épisode où nous parlerons de ce lien impérissable ou du moins de l'attachement.
C'est beau.
C'était des conseils de Tati Love. Profitez de la vie, les enfants.
Ben oui,
profitez de l'amour.
Mais on peut pas dire mieux.
On est con à se prendre la tête pour des histoires de partage des richesses, ce truc comme ça. Hein, profitons de l'amour. Alors, on a parlé d'antiquité, parce qu'on est des occidentaux aussi, donc on se réfère beaucoup à ces civilisations gréco-romaines. Mais Claire, tu es venue avec deux textes inuits, donc d'autres civilisations. Moi, j'ai juste une petite question en quelques mots. Tu vas souvent chercher dans ces contes des origines, dans des contes anciens venus de peuples lointains?
Oui,
ou pas forcément?
La plupart des contes traditionnels sont issus des tribus de l'origine, quoi. Et c'est une tradition orale, et du coup, c'est assez. Moi, en tout cas, ça me touche beaucoup de se dire que la force de l'oralité, de la transmission à travers justement les générations, puisque ça veut dire que c'est des contes qui existent depuis des centaines et centaines et centaines d'années.
Et qui ont été adaptés, réadaptés en fonction de la transmission orale.
Voilà, on les trouve. La femme phoque, c'est un conte inuit, mais dans les contes celtiques, il y a aussi des femmes phoques, des femmes qui sont femmes la nuit et phoques le jour. Enfin, du coup, il y a des échos dans d'autres cultures.
On va en reparler après. Tu nous en fais un petit dernier ?
Voilà, un petit dernier inuit aussi. Elle avait commis une faute si terrible que son propre père l'avait jetée du haut de la falaise. Elle était tombée, elle avait fendu les flots et dans les eaux, les poissons ont dévoré ses chairs, ne lui laissant plus que son squelette immaculé. Depuis ce jour, elle errait dans les eaux de la crique et se nourrissait de poissons. Depuis ce jour, les anciens racontaient que la crique était hantée, qu'elle était habitée par une femme maudite, une démone. Plus personne ne fréquentait la crique. Les années ont passé, les siècles se sont écoulés et les histoires se sont oubliées. Ce matin-là, lorsque ce jeune pêcheur est venu dans les eaux de la crique sur son kayak, il n'avait jamais entendu parler de la légende de la femme squelette. Il a jeté sa ligne dans l'eau et au fond de l'eau, son hameçon s'est coincé dans la cage thoracique de la femme squelette. Sa ligne s'est tendue, il était content, il avait déjà une prise. Il a tiré. Et plus il tirait vers le haut, plus dans les fonds marins la femme squelette se débattait. Plus elle se débattait et plus la mer s'agitait. Plus les flots rageaient et plus le kayak manquait de se renverser. Mais l'homme tenait bon, il était fort. Vous savez ce qu'on dit des hommes, ce sont eux les plus forts. Il a tiré un dernier coup sec de toutes ses forces, il a propulsé la femme squelette dans les airs. Ils se sont fait face, nez à crâne. Ah ! L'homme a tout lâché, la femme squelette est tombée, elle s'est coincée la mâchoire au bord du kayak. Il n'a rien vu, il a pris sa pagaie, il a pagayé le plus vite possible en direction du rivage. Quand son kayak a touché terre, l'homme a bondi, il a saisi sa ligne et il s'est précipité vers le village. Il a couru, il s'est effrayé, il suffoquait. Elle volait dans les airs, elle le suivait, elle souriait. Il a franchi le seuil de sa maison, il a claqué la porte, il a jeté la ligne dans un coin et... Il est resté là, haletant. Il fermait les yeux. Il a pris un moment, un long moment pour reprendre sa respiration. Quand il a ouvert les yeux, il a regardé, il a vu qu'il y avait toujours le Tados. Bon, c'était un peu moins effrayant parce que là, les os, ils bougeaient plus. Alors il s'est approché. Il est allé voir, il s'est penché. Il a explosé de rire, il a tout compris. Sa ligne s'est emmêlée dans un vieux squelette. Il s'est fait peur tout seul. Il a enlevé l'hameçon. Il a dénoué la ligne nœud après nœud et il a reconstitué le squelette, le crâne, les vertèbres, les omoplates, les côtes, le bassin, les fémurs et les tibias. Il l'a longuement regardé. Il lui a semblé qu'elle avait dû être belle. Il est allé chercher une fourrure, il l'a recouverte et il est allé se coucher. Elle, elle avait senti combien l'homme avait été bon pour elle. Elle le regardait dormir. Et dans la nuit, elle a vu que l'homme a perdu une larme dans son sommeil et que la larme coulait sur sa joue. Alors, sans un grincement d'articulation, sans un craquement d'os, elle s'est levée. Elle s'est penchée sur l'homme, elle a posé sa mâchoire sur la joue et elle a bu la larme. Que c'était bon. Il lui semblait boire à une fontaine d'eau vive. Tout contre l'homme, là, elle a entendu le tambour de la vie. Pas poum, 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 poum. Elle a plongé ses phalanges dans la poitrine de l'homme et elle en a sorti le cœur. Pa boum, 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 boum. Elle a mis le cœur dans sa propre cage thoracique. Et elle a commencé à chanter. Elle a chanté pour de la chair et la chair a recouvert ses os. Pa boum, 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 boum. Elle a chanté pour de la peau. Elle a chanté pour des veines. Elle a chanté pour des cheveux, pour des yeux, pour des lèvres. Pa boum, 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 pa boum, 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 boum. Elle a chanté pour une poitrine généreuse. Elle a chanté pour une fente entre les jambes. Pa boum, 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 pa boum, 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 boum. Elle a terminé son chant par chanter pour son propre cœur à elle. Pa boum, 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 pa boum, 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 boum. Quand elle eut terminé, elle a replacé le cœur de l'homme dans sa poitrine et elle est venue se coucher tout contre lui, peau contre peau. Au petit matin, lorsque l'homme et la femme se sont réveillés, ils étaient entortillés de la meilleure façon qu'ils soient. Et depuis ce jour, la faute qui avait fait son malheur a été effacée du cœur de la femme à tout jamais.
Bravo.
Et j'ai envie de dire, enfin, merci. Une histoire venue de la nuit des temps qui finit bien. Ça fait plaisir quand même. De l'amour, de la douceur, Aline, une sorte d'égalité des sexes.
Marine, prenez des notes.
C'était parfait. Merci Claire. Merci. C'était Claire Bonaz en direct non, mais en tous les cas en public au Muséal à Alba-la-Romaine pour cette
quatrième édition de notre cycle Radio d'Amour, coproduit par la SMAC 07 et Radio M, et on va conclure.
Exactement, enfin. Mais vous restez avec nous, que ce soit dans la salle ou même derrière votre ordinateur, on passe au bonus, on va pouvoir discuter de tout ce dont on a parlé juste avant.
Une sorte de débriefing.
De débriefing et peut-être même de défouloir, je ne sais pas. Si vous
enlevez vos vêtements, le bonus arrive.
Radio d'amour.